Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, ravi de vous retrouver pour débriefer de cet US Open 2023 et en fait, plutôt dans une version Deep Impact, car cette semaine, Camille Pin, consultante tennis sur Eurosport, nous fait le plaisir de nous rejoindre. Bonjour et ravi de te retrouver.
Salut les garçons, je suis ravi de prendre la place de Deep pour une fois.
À tes côtés cette semaine, tu n'auras pas un, mais deux journalistes de la rédaction qui n'ont raté aucune miette de ce qui s'est passé durant cette quinzaine américaine. Laurent Verne et Maxime Baptiste est là, ravi également de vous retrouver messieurs.
Salut Seb, salut Camille, ravi de vous retrouver, parce que c'est un petit moment aussi.
Oui, ravi aussi, moi aussi j'ai une belle coupure cet été, donc c'est une belle reprise.
Donc voilà, Coco Gauff et Novak Djokovic, lauréat de cette édition 2023 de l'US Open, c'est le résultat brut du tournoi, mais qui ont quand même dit long sur ce qui se passe en ce moment sur les circuits mondiaux. 24e titre en tournoi du Grand Chelem semble placer Novak Djokovic dans la peau du tennisman ultime. Alors, êtes-vous d'accord avec cela? Ce sera notre question de la semaine. Et ensuite, cette réflexion autour de ces joueurs qui entourent le Serbe. Où est la concurrence? Pourquoi se limite-t-elle irrémédiablement au seul Carlos Alcaraz cette saison en Grand Chelem? On essaiera de faire un état des lieux. Et enfin, ce programme ne serait pas complet sans la stat concoctée par Constance du compte Je sais de maths, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tournée cette semaine vers Coco Gauff, la jeune championne de cette US Open. Alors les joueuses, les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti. Alors Camille, tu vas prendre un stylo et tu vas noter ça. 24, 36, 72, 84, 390 et un numéro bonus, le 1. On viendra dessus.
Complémentaire.
Voilà. Ça te fait penser à quoi, donc, mis à part les chiffres du loto de lundi prochain, ou plutôt à qui?
Et 24, forcément, je pense à notre cher Djoko. Le reste, je ne cherche même pas. Donc...
Oui, c'est vrai que. Bon, voilà, ouais, j'ai pris que cela.
Le premier chiffre est parlant, celle.
Voilà, moi, j'ai pris que cela, mais effectivement, il y a plein d'autres chiffres qui auraient été tout aussi parlants. En 72 tournois majeurs disputés, il a joué 36 finales avec au bout 24 titres, le dernier donc à l'US Open. Donc une fois sur deux, il est en finale de tournoi majeur et une fois sur trois, il gagne. Voilà, ça donne le vertige.
Ça donne le vertige et surtout, ça montre sa capacité à tenir dans le temps son niveau de jeu. On sait qu'il est, il va monter même crescendo plus on prend en âge. Et mieux, on connaît son tennis. Donc, chez Djokovic, qui part déjà de très, très haut, il est en train d'atteindre des sommets. Moi, vraiment, ce qui m'épate, c'est son physique, qu'il soit capable, à son âge encore, de tuer tous ses adversaires grâce à cette capacité physique. Et c'est quelque chose qu'il travaille depuis bien longtemps avec vraiment une façon de vivre extrêmement saine. Et je crois qu'il est en train de récolter les fruits de ce travail. Alors parfois, ça faisait rigoler qu'il mange son gluten. Mais je crois que ce sont les petits détails qui lui permettent aujourd'hui de quasiment être inégalé, comme tu disais, à part Carlos Alcaraz. Mais ces chiffres fous sont liés à aussi une rigueur extrême, une rigueur complètement folle. Et parce qu'à son âge, normalement, il y a le corps, petit à petit, ne va pas pouvoir fournir les mêmes efforts. Il est en train de montrer que, limite, il est encore en train de monter crescendo.
Et Laurent, je crois que cette stat ne t'a pas échappé. Il a fait la moitié de son palmarès en Grand Chelem en l'espace de 5 ans après ses 31 ans, 12 titres entre juillet 2018 et septembre 2023. C'est peut-être ça, hein, quand même, le plus bluffant chez lui.
Bah, en tout cas, c'est quelque chose d'assez ahurissant. Il faut se souvenir qu'il y a un peu plus de 5 ans, donc à la sortie de Roland-Garros, le fameux match où il avait un peu pété un câble après avoir perdu contre Cecchinato, où il avait dit « je suis de retour dans le vestiaire », il savait même pas s'il allait aller au Wimbledon. À ce moment-là, il était vraiment, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas gagné le tournoi du Grand Chelem, il était au creux de la vague, c'est la plus grosse période de disette de sa carrière, et de loin. Et depuis, il est revenu à Wimbledon, il gagne l'US Open. Et donc de Wimbledon 2018 à aujourd'hui, il a remporté 12 titres du Grand Chelem de plus. C'est-à-dire autant qu'entre 2008, sa première victoire dans un tournoi majeur à Melbourne, et en 2018 quand il revient vraiment au top. Donc c'est quand même assez fou, c'est après la trentaine, hein, parce qu'il a 31 ans à ce moment-là. Donc ça, c'est totalement inédit. Évidemment, les 24 titres, c'est totalement inédit, mais je pense que si on nous avait dit... à l'été 2018, alors que Federer était à 20 à ce moment-là, lui était à 12, non seulement il rejoindrait Federer et Nadal, mais qu'en plus il les dépasserait pour aller à 24, qui rejoindrait même Margaret Court, en tout cas moi je ne l'aurais pas cru une seule seconde. Donc Camille a raison d'insister sur la dimension physique, c'est assez extravagant ce qu'il fait à 36 ans, mais je trouve aussi que ce que j'ai envie de souligner là après ce tournoi et particulièrement cette finale, c'est la façon dont il est allé la chercher. Parce que physiquement, mine de rien, il a souffert contre Medvedev et il y a eu vraiment un combat dans cette finale, c'est pendant le deuxième set. Le premier, Medvedev est pas dedans. Le troisième, je pense qu'il a encore la tête au deuxième. Mais en revanche, dans le deuxième set, il lui a fait très très mal physiquement. C'était dur pour Djokovic. Et je pense qu'il savait qu'il fallait pas qu'il s'embarque dans une filière comme ça, très longue, sur un match potentiellement de 4 heures, 4 heures et demie, si ça allait en 5-7, voire plus, peut-être 5 heures. Donc il a été ultra agressif, ultra offensif. Et pour moi, la stat vraiment de cette finale, ce sont ses 44 montées au filet. Parfois derrière sa seconde balle, il a superbement utilisé notamment son slice aux égalités. Il a fait un nombre de points incalculable avec. Et je trouve que voilà, c'est une façon, toujours la preuve que Djokovic est capable de se réinventer, de s'adapter à son adversaire, au contexte, à son âge aussi. Et ça, c'est vraiment très très fort. Jamais il aurait gagné une finale de Grand Chelem comme ça en montant 44 fois en 3-7 il y a une dizaine d'années. Donc
Surtout, Laurent, tu ne penses pas que c'est vraiment une réaction à cette grosse désillusion face à Medvedev qu'il avait eue? Et c'est un joueur qui est capable de se sortir du trou pour trouver des solutions et aller enfin chercher la gagne. Et peut-être que le fait de monter au filet, c'était quelque chose qu'il avait quand même bien planifié, bien en tête, qu'il avait peut-être moins fait lors de cette finale qu'il aurait dû prendre. Donc il a cette soif encore de vaincre. En se faisant mal, en allant peut-être chercher des solutions qui lui sont pas naturelles, tout ça alors qu'il a déjà tout accompli. Donc cette volonté, moi, je suis vraiment sur le physique et la volonté. Après le tennis, ça va suivre, mais
Ouais, ça
c'est
va suivre, mais
vraiment un être particulier dans ce qu'il a envie de donner.
ça c'est
Et
sûr, mais il faut avoir les intentions, mais il faut être enfin, la qualité qu'il a du jeu qu'il a produit au filet dimanche soir, c'est assez hallucinant quand même. Alors évidemment, on se souvient des 3 points là au milieu du deuxième set, cette demi-volée de coup droit pour sauver une balle de break et derrière deux autres pour conclure le jeu. C'est pas dire que c'est du Hedberg, mais c'est du grand tennis au filet, quoi. Donc les intentions, c'est une chose, mais tu as raison, je pense que il a réagi, alors c'est 2 ans après, mais tactiquement à la façon dont il avait perdu, parce qu'il y avait le côté, le contexte, tout ce poids émotionnel, évidemment, du possible Grand Chelem calendaire, mais je pense que tactiquement, il s'était fait manger aussi ce jour-là. Et Daniil Medvedev, lui, qui lui-même avait réagi d'ailleurs à la finale de l'Open d'Australie 2021, donc c'est toujours intéressant entre ces deux-là. Et si on se souvient, peu de temps après, en 2021, il s'était retrouvé en finale, je crois, à Bercy,
merci, ouais.
Djokovic et Medvedev. Et déjà, il avait été beaucoup plus agressif, il était beaucoup monté au filet. Donc, ce n'est pas complètement surprenant. Mais quand même, je trouve ça assez bluffant. Et en plus, la qualité, il gagne 37 des 44 points qu'il a eu à jouer au filet. Et pour moi, c'est là qu'il gagne ce match.
Alors justement, sur cette finale, c'était effectivement un remake de celle de 2021. Et il avait fini en pleurs hein, sur sa chaise. On se souvient de ces images. 2 ans plus tard, c'est ses sourires aux lèvres qui soulèvent le trophée. Et c'est loin d'être anodin parce qu'effectivement, au niveau tactique et technique, il a pratiqué un tennis proche de la perfection. D'où cette question, Maxime, qu'on posait en début d'émission. Est-ce qu'il a créé, engendré, quelque part, le joueur ultime du tennis moderne?
Le joueur ultime, c'est une affirmation
C'est une question.
dangereuse, dangereuse. Non, je dirais il a peut-être créé le joueur à l'efficacité ultime. Le joueur de tennis ultime, pour moi, c'est encore plus. Enfin, il y a quelque chose de. Il y a une dimension esthétique que Djokovic, pour moi, n'a pas, ou à moins que d'autres joueurs, comme par exemple Federer à l'époque. Même un Sampras, j'aimais beaucoup sa gestuelle. Après, c'est très personnel, hein. L'esthétique, c'est très personnel. Mais sur le plan de l'efficacité, c'est absolument extraordinaire. En fond de court, il est imprenable. Il n'a pas de faiblesse. Il a zéro faiblesse. Il se déplace à une rapidité affolante à 36 ans. Il anticipe tout. On a l'impression que il attire la balle sur le plan défensif. Comme le disait très bien Laurent, au filet, qui était quand même une de ses lacunes pendant une bonne partie de sa carrière. Au filet, il a fait des progrès incroyables et cette finale l'a démontré encore. Allez, il y a le ça et il y a le fameux smash, le Joko smash qui lui manque. Et encore sur cette finale, il n'en a pas fait de mauvais choix au smash. Mais ce qui me subjugue chez lui, c'est sa capacité à toujours, ou alors 99% du temps, faire le bon choix. toujours, sous pression, quand il est moins bien physiquement, il va trouver une clé, il va trouver un moyen de survivre dans des conditions où tous les autres s'effondreraient ou auraient au moins un vrai coup de mou. Laurent l'a dit, entre 3-3 dans le deuxième set et le tie-break, il souffrait physiquement. Dans les échanges longs, il tenait plus la cadence face à Medvedev. Il partait beaucoup plus rapidement à la faute. Et il s'est dit tout simplement que sa seule option pour survivre à ce moment-là, c'était d'écourter les échanges. Or, il n'avait pas cette corde à son arc il y a 5 ou 10 ans, 10 ans, je dirais. Il ne pouvait pas écourter les points comme il les a écourtés dimanche. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, oui, c'est le joueur à l'efficacité ultime. Si ce n'est pas le joueur ultime techniquement, c'est le joueur à l'efficacité ultime.
Parce que si on regarde de plus près, effectivement, 84% de réussite au filet en montant autant sur 3 sets, c'est vrai que c'est monstrueux. On a l'impression presque de faire un bond en arrière quand on voit Edberg ou McEnroe prendre le filet comme ça.
Après, pour moi, ça, la différence, c'est que quand on a des stats comme ça au filet et qu'on n'est pas un joueur de filet naturel, c'est qu'en fait, il se met dans les meilleures conditions possibles pour aller bien volleyer. Et c'est ce que disait Maxime, c'est qu'en fait, il est tellement efficace dans sa construction, c'est l'idée quand il vient, c'est pour conclure plus rapidement. Et en général, il doit avoir des volées relativement faciles. Alors, on connaît sa souplesse, maintenant, il a une main développée, donc il est capable de faire des super volées dans des mauvaises conditions. Mais je dirais que sur les 80% de points remportés, je suis quasiment sûre que la plupart sont des volées jouées. Et c'est là où il montre que le tennis, c'est pas forcément d'avoir une main hallucinante, c'est de savoir jouer pour se mettre dans les meilleures conditions pour battre un adversaire. Et là, c'est le maître de tous les temps dans ce secteur-là.
Et tu as d'autant plus raison que contre Medvedev, avec son service slicé, il avait la quasi-assurance mentale de gagner le point à chaque fois aux égalités. C'est-à-dire qu'on savait qu'il allait faire une première balle slicée, et ça a été un peu le tort de Medvedev, et il l'a avoué d'ailleurs en conférence de presse, c'est que Medvedev a jamais trouvé la solution par rapport à cette première slicée, parce qu'il est resté toujours dans la même position au retour. Et il y a un point qui m'a frappé, c'est à la toute fin du match, à 5-3, pour Djokovic, il sert pour le match, il fait son traditionnel service slicé pour commencer sur première balle, et là Medvedev avait avancé de 3 mètres, de 2-3 mètres, presque sur la ligne de fond, et lui a envoyé un retour gagnant en court croisé. Bon, il n'aurait pas pu le faire tout le match, on est d'accord, mais c'était symbolique de cette réaction trop tardive par rapport tactiquement, et je pense que en fait, ça a apporté une tranquillité sur le plan mental à Djokovic. Très importante de se dire tout le match, si ça va pas à égalité, je sers première balle slicée, je monte et je fais le point.
Alors Camille, est-ce qu'on peut parler de tennisman ultime quand on le voit jouer avec ses accélérations, coup droit, marteau, cette longueur de balle systématique, une précision diabolique hein, quasiment
Il est en train de montrer, Novak, que la puissance ne fait pas tout. Et on l'a tellement entendu que les joueurs, petit à petit, ça allait être des géants, des puissants. Djoko, ce n'est pas un géant puissant. Et pourtant, il surdomine ce tennis actuel. Et donc, c'est un pied de nez un petit peu à tout ce qu'on pouvait aussi entendre il y a 10, 15 ans sur l'évolution du tennis. Il est en train de montrer, par contre, que physiquement, on est obligé d'être hors norme pour pouvoir tenir une intensité sur une durée de match et une durée de tournoi en Grand Chelem. C'est incroyable qu'il est capable de développer, mais aussi qu'à un moment donné, c'est un sport où si on respecte, pardon, une géométrie et une science du jeu, on peut prendre les joueurs les plus puissants et les amener là où vous voulez. Et pour moi, c'est un artiste du tennis. Et on parle vraiment de quelqu'un qui se nourrit de la stratégie du tennis. Et moi, c'est pour ça que j'adore son jeu, même si esthétiquement, c'est peut-être pas aussi beau au niveau gestuel que Roger. En revanche, sur la science du jeu au millimètre près,
Ouais.
il est au-dessus de tout le monde. Et donc, c'est un peu un pied de nez au côté très pragmatique. Il faut des grands, il faut de la puissance. Ben, le tennis, ce n'est pas un sport linéaire avec juste de la puissance. Et donc, j'aime cette façon d'imaginer le tennis moderne.
C'est quoi le coup qui t'impressionne le plus, Laurent, chez lui, au final?
C'est pas un coup, c'est le côté géomètre, c'est son utilisation de chaque centimètre carré du court. Et ça, je suis vraiment d'accord avec Camille, c'est une forme d'art d'être capable de faire ça. Je me souviens d'un point pendant la finale. Alors, c'est pas un point très important, donc je n'aurais pu vous dire où il était, mais il doit y avoir 7-8 frappes de balles. Et on voit que dès la première, il construit l'ensemble de son point. Et ça se termine avec un revers qui va déporter Medvedev sur sa gauche. Et puis, il finit par un revers long ligne, Djokovic, qui est vraiment mais au millimètre dans l'angle du court, près de la ligne de fond. Et ça, c'est quand même exceptionnel. C'est pour moi, c'est aussi beau qu'une volée acrobatique ou qu'un revers à la Wawrinka ou à la Federer ou à qui tu veux. Mais c'est plus l'ensemble. C'est-à-dire que quand tu regardes Djokovic jouer, tu te dis pas forcément ce coup-là est monstrueux. Parfois même, tu te dis mais pourquoi il est aussi difficile à battre alors que en apparence comme ça, il y a presque rien de super impressionnant. Le problème, c'est que l'ensemble de tout ça, ça donne quelque chose de quasiment insoluble. Mais vraiment, je pense que ce que je préfère chez lui, au-delà de sa gestuelle au service, que j'adore, j'ai déjà dit, et je pense d'ailleurs que c'est un des tout meilleurs serveurs du monde aujourd'hui, si on prend tout en compte, puissance, précision, seconde balle, constance, variation, pour moi, il est dans le top 5, c'est pas John Isner, mais il sait tout faire avec son service. Mais vraiment, dans la construction à l'échange, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vu, que moi, peut-être vu jadis chez les femmes, chez Chris Evert ou Martina Hingis, qui avait ça. Sauf que là, ça se fait à une vitesse, parce que l'époque a changé, 100 fois plus grande, quoi. Donc, moi, c'est ce que j'aime le plus chez Novak Djokovic, ce côté géomètre.
Il a quand même un coup qui le distingue et qui l'a toujours distingué des autres, c'est son retour de service qui est, on a beau le dire, ce qui est extraordinaire. Tous les serveurs, tous les types de serveurs, il les maîtrise. Les serveurs puissants qui lui envoient des missiles à 230 km/h à la Shelton, les serveurs plus placés comme un Carlos Alcaraz. Quand il varie bien, notamment sur terre battue à Roland-Garros, moi, ça m'avait marqué aussi cette manière qu'il avait eue, Djokovic, lors de leur demi-finale, de lui mettre tout de suite la pression, quoi qu'Alcaraz fasse, c'est-à-dire qu'il serve lifté, extérieur, T, enfin, peu importe, il a toujours cette réponse qui est à la fois précise et implacable, c'est-à-dire que vous ne respirez plus. Quand on joue Djokovic, quand on sert contre Djokovic, au bout de quelques jeux, on suffoque. C'est ça aussi sa grande qualité à Djokovic. Et je voulais rajouter quelque chose de fondamental et dont il a parlé lui aussi. Et c'est ce qui a aussi caractérisé ce Big Three, c'est cette capacité à tout le temps progresser, tout le temps ajouter des choses supplémentaires à son jeu. Contre Medvedev, il y a quelque chose qui m'a vraiment subjugué, c'est cette capacité à varier à l'échange, à utiliser beaucoup son slice de revers. Djokovic a slicé énormément contre Medvedev, alors que Djokovic, en début de carrière, voire en milieu de carrière, il frappait constamment à plat. Il n'avait pas besoin d'un slice, il était tellement fort en revers à plat dans la diagonale ou le long de ligne. Là, il a joué avec, j'avais l'impression qu'il jouait avec Medvedev au chat et la souris. Il dit, tiens, je vais te mettre une balle le long de la ligne, puis je vais te faire plier tes longues jambes avec un petit slice court, comme aimait les faire Federer à l'époque. Enfin bref, il y a cette dimension totalement complète qui est folle, qui est folle.
Et c'est vrai qu'au-delà de leur talent indéniable, hein, évidemment, mais la longévité des Nadal et Federer résidait aussi à trouver des solutions effectivement à chaque problème posé par l'adversaire en changeant de coup après chaque point. Et c'est vrai que la faculté d'adaptation tactique de Djokovic est assez bluffante. Alors, Camille, on avait aussi souligné la facilité avec laquelle il a progressé dans sa partie de tableau jusqu'à la finale, bon, mis à part Djere, qui est peut-être un cas un peu différent, mais à chaque fois, il avait des profils de joueurs très différents. Et à chaque fois, il a réussi à mettre un plan à exécution. Est-ce que c'est ça aussi qui le rend différent des autres et qui laisse indéniablement le Serbe au-dessus de la mêlée?
Il a, je pense, quelque chose en plus, c'est que c'est un mort de faim de la victoire. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas envie de gagner, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas se méprendre, mais on sent que c'est viscéral, qu'il doit trouver une solution, coûte que coûte. Et quitte à se mettre le public à dos, et d'ailleurs, je soupçonne de temps en temps, ils se mettent le public à dos parce que ça l'aide avoir encore plus envie de battre l'adversaire. Enfin, il a vraiment au niveau mental quelque chose de particulier, ce garçon. Et le fait de pouvoir s'adapter tactiquement, ça part d'une volonté de trouver une solution coûte que coûte, quitte à mettre de côté des choses qu'on aime faire. Parce que le haut niveau, c'est pas se faire plaisir, faire que des coups champagne et se faire acclamer par le public. Souvent, c'est un peu l'image qu'on a. Ah non, non. Le haut niveau, c'est vraiment parfois se retenir de faire des coups qu'on a envie de faire, mais qui c'est pas le moment, parce que l'adversaire vous attend de ce côté-là, et qu'il faut peut-être se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas vraiment, parce que ce jour-là, face à ce joueur-là, c'est ce qui vous amène à gagner. Et pour moi, là-dedans, c'est un chef-d'œuvre, ce qu'il fait au niveau mental, d'aller chercher n'importe quel joueur pour coûte que coûte aller chercher la victoire.
Alors, intéressons-nous justement à la concurrence derrière le nouveau numéro 1 mondial qui entame au passage sa 390e semaine sur le trône. Donc, 390,
C'est fou.
mis bout à bout, ça fait 7 ans et demi. Voilà, et ça dure depuis donc 2011. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette année, Djokovic a joué les quatre finales du Grand Chelem pour donc réaliser un petit chelem. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu quatre joueurs différents face à lui. Donc, Stefanos Tsitsipas à l'Open d'Australie, Casper Ruud à Roland-Garros, Carlos Alcaraz à Wimbledon et donc Daniil Medvedev à l'US Open. Et force est de constater que bah, seul l'Espagnol a réussi à le contenir dans un tournoi majeur en le battant en 5-7. Les autres ont tous échoué en 3-7. Je vais me tourner vers Laurent d'abord. Est-ce qu'on peut réduire la concurrence à Alcaraz? Est-ce que c'est le seul joueur à pouvoir contester sa suprématie au final?
Aujourd'hui, oui, tu l'as dit, hein, il y a eu quatre finales de Grand Chelem pour Djokovic. Il en gagne 3 en 3-7 contre trois adversaires différents qui étaient tous dans le meilleur contexte possible, c'est-à-dire Ruud sur terre battue à Roland, Medvedev à Flushing, là où il joue le mieux, et Tsitsipas à Melbourne, où il a globalement toujours très bien joué. Ils ont tous pris 3-7. Et Alcaraz, lui, le joue à Wimbledon, a priori là où Djokovic est vraiment super à l'aise, parce qu'il n'avait pas perdu depuis des lustres, et où Alcaraz, lui, n'avait encore pas vraiment de repères au top top niveau. Mais lui, il a gagné. Il a gagné en plus en survivant à un début de match très difficile, il prend 6-1, et en gagnant un tie-break contre lui, dans le deuxième, super important aussi, en plus, alors que Djokovic gagne tous ses tie-breaks. Donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve effectivement que c'est limpide, la lecture de la saison en Grand Chelem. Il y a Djokovic et il y a Alcaraz aujourd'hui, qui est le seul, indépendamment du contexte où ils se jouent tous les deux, à pouvoir rivaliser avec lui. Et ben pour les autres, c'est trop, c'est beaucoup trop haut ou un peu trop haut. Je pense que Medvedev, s'il avait joué comme contre Alcaraz en demi-finale, je ne sais pas s'il aurait battu Djokovic, mais en tout cas, ça n'aurait pas fait 3-7. Mais le problème, c'est d'être capable de répéter ça aussi, de le faire deux fois de suite. C'est tellement compliqué. Il a fait un match vraiment prodigieux hein, contre Alcaraz, dont moi, je ne le croyais pas forcément capable. On ne l'avait pas vu depuis très longtemps jouer à ce niveau-là. Mais voilà, derrière il y a Djokovic et c'est la difficulté aujourd'hui si tu veux gagner un grand chelem de battre l'un puis l'autre. Donc oui, pour moi aujourd'hui vraiment clairement, ça ne veut pas dire que Tsitsipas ou Medvedev ne gagneront pas ou ne regagneront pas de tournoi du grand chelem un jour. Mais à l'heure actuelle, je ne vois contre un Djoko au top, je ne vois qu'Alcaraz pour être capable de le battre. En tout cas, c'est ce qu'on a vu cette année.
Quand on voit, Laurent, les styles de jeu, si on ferme les yeux et qu'on revoit ces quatre finales, pourquoi Alcaraz, il arrive à déborder Djoko? À un moment donné, il est plus créatif et il met beaucoup plus d'intensité physique de punch. Parce qu'à un moment, en fait, Casper et Medvedev, on a un son qu'ils ne peuvent pas en ce moment rivaliser parce qu'il n'y a pas quelque chose en plus pour le gêner. Et Carlos a cette, de temps en temps, il va faire service volé. Je crois que c'est celui qui a fait le plus service volé quasiment de l'année, Carlos, mais il le fait pas tout le temps. Donc en fait, il inquiète aussi Djoko par ses variations de vitesse de balle et de positionnement.
Oui, puis je crois aussi quand même indépendamment de tous les aspects tennistiques comme ça, je pense qu'il y a une question de caractère aussi. Et de pour moi, et c'est un truc qui a été très vite très évident chez Alcaraz, c'est que il a l'étoffe du champion. Est-ce qu'il avait toutes les armes dans son jeu? Ça, c'était un truc dont on pouvait débattre encore il y a 2 ans. Mais en revanche, en termes d'approche de la compétition, de volonté, pour moi, c'est jamais une victime expiatoire quand il rentre. Alors que je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs contre Djokovic comme ça ou contre Nadal avant qui rentraient sur le court déjà quasiment battus. Alcaraz, jamais. Ça ne veut pas dire qu'il passe pas à côté des fois et ce qui lui est arrivé à Roland montre qu'il s'était trompé dans son approche. Et sauf que 3 semaines plus tard à Wimbledon, on voit ce qu'on a vu. Donc il a une faculté à apprendre en plus de ses erreurs qui est assez folle, quoi. Donc je pense qu'il a aujourd'hui, c'est le seul à avoir le package complet pour pouvoir rivaliser avec lui et éventuellement le battre.
Et comme tu disais, Laurent, c'est comme Alcaraz, comme Djokovic, ne refait jamais deux fois la même erreur. Et ça, c'est très important à ce niveau-là. C'est-à-dire que tirer les leçons de ce qui n'a pas marché pour atteindre le niveau supérieur. Et à ce niveau-là, il est assez prodigieux, ce gamin, parce qu'il a 20 ans, hein, faut le rappeler, il a 20 ans. C'est le seul qui agresse Djokovic comme ça. Djokovic est un tel service, comme tu le disais encore d'ailleurs Laurent, il a tellement progressé dans ce secteur-là qu'il est souvent en contrôle des points quand il sert. Et je dirais même sur seconde balle, parce qu'il a progressé aussi sur sa seconde balle, il la frappe un peu plus de temps en temps. Ça, c'est un peu l'influence d'Ivan Isevich. Mais il est quasiment tout le temps en contrôle quand il sert, et puis il est tellement précis au retour que les adversaires ont pas beaucoup d'opportunité de dicter. Or, Alcaraz, lui, il est tellement agressif que il équilibre entre guillemets cette balance-là. Donc c'est pour ça que ces matchs-là accouchent de thrillers, de moments épiques dont on a hâte de les retrouver, et on espère que ce sera le cas en cette fin de saison et puis en 2024. Non, moi, ce qui me préoccupe plus, c'est les autres. Alors, Medvedev est un cas particulier, je suis d'accord avec Laurent, mais Tsitsipas, par exemple, me préoccupe beaucoup. Je trouve que, bon, il est à 25 ans, il a un tournant là, Stefanos Tsitsipas. Il faut qu'il arrive à se relancer, soit il peut manquer le train vraiment. Ses problèmes avec son père, avec son choix de staff, Philippe Poussis, puis le père, Apostolos, puis re-Philippe Poussis, puis re-le père. Ça montre à quel point il est un peu perdu en ce moment dans son tennis et dans ce qu'il veut faire. Je suis désolé, mais pour un joueur du top 5 régulier comme lui, perdre systématiquement en première semaine à l'US Open, il n'a jamais passé la première semaine à l'US Open, c'est quelque chose de rédhibitoire, j'ai envie de dire. Et puis, donc c'est un peu ça me dérange un peu. Est-ce que ça veut dire que dans le top 10 actuel, mis à part Alcaraz, Djokovic et Medvedev, le niveau est moins sûr qu'il ne l'était il y a 5 ou 10 ans? Je pense que le top 10 d'il y a 10 ans était plus fort, en tout cas plus consistant qu'il ne l'est à présent. Le retour de Zverev dans ce top 10 cette semaine est peut-être une bonne nouvelle d'un point de vue tennistique pur, parce que je trouve que quand Zverev est à son meilleur niveau, lui est très 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 solide et peut être un danger pour tout le monde, y compris Djokovic et Alcaraz. Mais voilà, moi ce que je voulais mettre en avant, c'est ce manque de fiabilité dans le top 10, mis à part les trois qu'on a cités, Djokovic, Alcaraz et Medvedev.
Et un petit aparté concernant Alcaraz, aussi talentueux soit-il, il n'a pas réussi à rallier la finale que tout le monde voulait voir face à Djokovic. Il vous a un peu déçu sur le coup?
Non, c'était surprenant parce que je le trouvais bien sur le début de semaine. Après, il montre encore qu'il n'a que 20 ans et qu'il y a des moments où il va gérer, à l'image de cette finale à Wimbledon, des choses incroyables et que parfois, sur des situations où on ne l'attend pas, il va peut-être être rattrapé encore par son âge. Mais ce n'est pas du tout inquiétant. Mais alors, il faut peut-être qu'il passe par des moments où il se casse la gueule, hein. Et pour devenir peut-être et battre les records de Djokovic quand il aura 36 ans.
Il y a eu des scènes assez cocasses, hein, Maxime, avec Juan Carlos Ferrero aussi, qui
Oui,
pouvait se rendre là.
je pense que c'est s'il y a un axe de progression maintenant pour lui, c'est parce que tennistiquement il est complètement dingue déjà ce joueur, mais c'est formidable de le voir jouer, c'est de gagner en autonomie vis-à-vis de Juan Carlos Ferrero. Je parle pas que de cette US Open, je parle de la tournée américaine avant cette US Open. À Toronto, Ferro n'était pas là, et donc Alcaraz a perdu assez tôt dans le tournoi, en quart de finale. Et puis à Cincinnati, Alcaraz avait pas de bonnes sensations, mais Ferro était de retour, et en fait, Alcaraz s'est accroché sur tous ses matchs. tous des matchs gagnés en 3-7, quasiment. Mais, sauf la finale dantesque face à Djokovic. Mais on sentait une vraie dépendance. Il se retournait souvent vers Ferro, qui n'arrêtait pas de parler d'ailleurs à tout. Je dirais même pas au changement de côté, je dirais après tout, après chaque point. Presque donnant l'impression qu'il téléguidait un peu Alcaraz, vraiment. Donc, ça, de ce
C'est ce qu'a
côté-là.
fait Tony avec Rafa
Ouais,
jusqu'à.
ouais, ouais, ouais. Mais là, vu que le coaching est autorisé,
D'accord.
on
Donc là, t'es
entend
en
beaucoup
train de dire,
plus.
là tu sous-entends que sans l'intronisation du coaching pendant les matchs,
Ah ben
il n'y
oui,
avait pas
je vais devoir
d'Alcaraz
regarder
dedans.
un match
C'était
derrière
15e
Tony.
mondial, quoi.
Non, je pense que sans le coaching, évidemment, Ferro trouverait un moyen de faire passer ses messages, comme Tony Nadal le faisait à l'époque, mais ce serait plus discret. Et peut-être que aussi, du fait de cette interdiction de coaching, du coaching là, il y aurait quand même une communication moins directe et moins évidente, et un lien de dépendance moins fort, je trouve.
Et un
Ça, je
peu plus
pense que je suis.
mesuré.
Voilà,
Ouais.
exactement. Je pense que c'est un point d'amélioration important, de progression important pour lui. D'autant que il a tout, ce gosse, j'allais dire. Il a tout pour s'en affranchir. Il a tout dans son tennis. Il a tout dans sa tête, comme le disait Laurent. C'est un champion. Il a un caractère de champion. Il sait faire le bon choix quand il faut. Il sent le tennis. C'est un joueur qui sent le tennis, et c'est pas le cas de tous ceux qui ont été dans le top 10, par exemple. Il sent vraiment le tennis. Donc, c'est un petit, comment dire, un petit axe de progression. C'est pas une critique. Je dis juste que s'il arrive à s'affranchir un peu plus de Juan Carlos Ferro, il en sera encore plus redoutable, j'ai envie de dire.
Bon, t'es
Ferro
d'accord, il faut qu'il coupe le cordon, en fait, hein, c'est ça.
Ah ouais, mais c'est un joueur téléguidé, quoi. Non, mais moi, je suis quand même bluffé des progrès qu'il a fait en un an. Je pense qu'il est un joueur plus fort, plus complet qu'il y a un an quand il a gagné l'US Open. Et c'est ça qui est le plus impressionnant. Si on prend les deux dernières saisons, c'est à chaque fois le bond géant qu'il a fait d'une année sur l'autre, entre 2021 et 2022 d'abord, et puis même entre 2022 et 2023. Alors oui, il y a eu ce qu'on peut appeler ça des couacs. La demi-finale de Roland était un vrai couac parce que pour le coup, il n'a même pas pu livrer le combat qu'il aurait voulu livrer. Là, pour moi, je le trouvais bien, mais pas exceptionnel sur le début de la quinzaine. Enfin, le match contre Evans, il était bousculé un petit peu parfois. Enfin, je le trouvais pas forcément au top de ce qu'il pouvait faire. Après, sur la demi, honnêtement, pour moi, le mérite revient quand même grandement à Medvedev. Hein. Il a vraiment fait son meilleur match, probablement depuis l'Open d'Australie 2022, je dirais. Moi, ça faisait un an et demi que je ne l'avais pas vu comme ça, en tout cas sur un grand chelem.
C'est peut-être
Et
son meilleur match tout court en Grand Chelem, peut-être. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est.
je sais pas, mais en tout cas, c'était du Medvedev niveau vainqueur de grand chelem. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Ouais.
Donc, perdre ce match-là, il n'y a pas. Il n'y a évidemment aucune honte et c'est en rien alarmant. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'aujourd'hui, Alcaraz, c'est le seul capable de battre Djokovic, peut-être n'importe où, n'importe quand. Ça ne veut pas dire qu'il le battra n'importe où et n'importe quand à chaque fois, mais il peut le faire. En revanche, par rapport à Djokovic, il est plus fragile que le Serbe face à un plus grand nombre de joueurs, je pense. Donc forcément, dans un grand chelem, il s'expose un peu plus souvent. Djoko, il a une marge qui est assez dingue quand même. Donc on peut me parler de son tableau, tout ce qu'on veut, mais quand même, je pense qu'il a une sécurité qui n'est pas tout à fait celle aujourd'hui de Carlos Alcaraz encore. Mais après, dans quelle proportion il va encore progresser l'année prochaine? C'est ça que j'attends de voir. Parce que vu la progression qu'il a eue ces deux dernières saisons d'une année sur l'autre à chaque fois, je me dis, waouh, et là, il a 20 ans, c'est assez fou. Et pour moi, ce qu'il a fait à Wimbledon, je pense qu'on a déjà un peu trop vite évacué la chose, mais c'est ahurissant.
Récent,
Personne ne le croyait capable, honnêtement, de gagner. Enfin, personne. C'était quand même, si on nous avait dit il y a 6 mois qu'Alcaraz allait gagner Wimbledon, en plus en battant Djokovic en 5-7 en finale, je pense que c'était pour beaucoup d'entre nous, on aurait dit c'est quand même très haut, trop tôt. Mais non, pas pour lui. Donc, non, moi, je suis pas du tout inquiet pour lui et je peux pas dire que ce soit une déception quand même.
Et un mois après, qui plus est, un mois après un petit traumatisme à Roland-Garros contre le même Djokovic, quoi. Donc c'est ça qui est fou, c'est que il apprend à une vitesse dingue. Donc ouais, on peut pas être déçu. Ce qui est, ce qui
Non, non,
est,
je
ce qui
parle
est,
pas
ce
de
qui est...
déception, oui. Enfin,
Non, mais
après.
ce qui est exceptionnel, c'est le côté quand maintenant Alcaraz se retrouve en demi de Grand Chelem, c'est normal. C'est ça qui est fou, en fait, c'est qu'en un an,
Pour un vainqueur de Grand Chelem, Oui, ça paraît.
Non, 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 c'est non, non. Un vainqueur de grand chelem, il y a tellement de joueurs qui ont gagné un grand chelem dans leur carrière et qui ne se sont plus retrouvés en demi-finale ou qui ont eu beaucoup de mal à y retourner. Lui, tu as l'impression que maintenant, chaque grand chelem, c'est minimum demi-finale et on n'en parle pas. Laurent parlait de ses progrès en un an. Faut se souvenir de sa seconde semaine l'an dernier à Flushing Meadows. C'était extraordinaire, hein, mais il était à la limite à chaque fois. Il a gagné en 5-7, en 8e contre Cilic, en quart contre Sinner, en demi contre Tiafoe. C'était à la limite à chaque fois. Il y arrivait, mais c'était prodigieux. On a adoré ça, mais il n'avait pas de marge. Cette année, jusqu'à sa demi-finale contre Medvedev, on ne s'est jamais posé la question de savoir s'il allait y arriver. C'était évident. Et ça, c'est fou.
Il avait glissé d'ailleurs après Wimbledon que s'il avait perdu la deuxième manche, il n'aurait peut-être pas soulevé le trophée aussi. Chose qu'a presque failli faire Medvedev. Et en tout
Ça
cas,
à
c'est.
Wimbledon?
Ouais.
Ah oui, ouais, c'est plus que probable, oui, mais eh oui, mais sauf que lui, il l'a gagné le deuxième set
Voilà, c'est
et au
ça. C'est ça.
tie-break. Il fallait
Ouais.
gagner le tie-break contre
C'est ça.
Djoko et Medvedev l'a perdu. Voilà, c'est peut-être ça
Ça
aussi
se
la
joue à ça. Il
différence. Hein.
y a
C'est pas
peut-être une part
grand-chose,
de
mais bon.
chance aussi quelque part qu'on
Moi, je crois pas.
sous-estime.
Ah, tu la provoques, je pense, à
Je
ce
crois pas que ce
niveau-là.
soit de la chance. Je crois
Ah,
que c'est
au bout de
tout sauf un
24 du Grand
hasard.
Chelem, est-ce qu'il peut vraiment y avoir de la chance? Non, peut-être pas. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que Djokovic a perdu 5 fois cette saison et 3 fois contre des millennials. Donc il y avait donc Alcaraz à Wimbledon, il y avait Musetti à Monte-Carlo et Rune à Rome. Les autres, on les cherche un peu. Hein. Alors Roger Aliassime, lui, il est porté disparu depuis le mois de mars. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et
Ah oui, tu
Sinner.
veux descendre jusque-là, là, on va
Non,
aller
non,
où?
mais
Ça va durer longtemps, là.
et Sinner, le petit chouchou de Camille, lui, il
Ouais.
plafonne face au top 10 depuis le mois d'avril. Alors évidemment, il a fait une demi à Wimbledon, mais il n'avait pas croisé un joueur du top
70, je crois.
80, ouais, même pas
Ouais, c'est ça.
79 ou
Ouais.
80. Donc,
Sébastien, mon petit Sinner, il s'est détaché depuis qu'on faisait les Deep Impact il y a quelques temps,
Ouais.
des Ojeda Agassi, même des Rublev.
Bah,
Il a quand même passé un cap. Il se rapproche
il se
des trois
rapproche.
premiers là.
Roger
Mais il
Aliassime s'est
plafonne quand
détaché
même.
par le bal. Hein.
Il
Ouais.
plafonne. Tu es
Bah,
dur.
tu trouves pas
Il
qu'il
est
se
là, il est
plaque?
là,
C'est vrai
il
qu'on
est
aurait
derrière.
aimé qu'il gagne un gros match en Grand Chelem cette année quand même, quoi.
Bah, c'est sûr. C'est pas
En
un peu
fait,
la déception sur ces grands chelems,
alors,
Sinner?
sur cette US Open, je dirais oui. Sur les grands chelems en général, je sais pas, mais sur cette US Open, oui. Pourquoi? Parce qu'il avait gagné un 1000 en fait juste avant. Il a gagné un 1000 à Toronto. On l'oublie un peu rapidement,
Oui, puis c'est
mais
un Zverev
son premier.
Enfin,
Voilà.
en phase de retour au top niveau. Donc
Exactement.
c'est vrai qu'on aurait aimé cette année le voir peut-être battre, gagner un match épique contre un Djoko ou un Alcaraz, et finalement il les perd contre Zverev. Donc c'est un petit peu dommage quand même. Et puis il y avait déjà eu son Roland qui était un petit peu décevant. Donc il manque pas grand-chose, hein, parce que dans la palette du jeu, le physique, il a à peu près tout. Il a montré en plus que c'était un vrai guerrier et qu'il était capable de livrer des combats énormes. Maintenant, il faut qu'il trouve le moyen de les gagner, ces matchs-là. Il reste jeune, hein. Il n'y a rien de dramatique et rien de rédhibitoire. Mais
Souvenez-vous, Zverev, il jouait bien sur les Master 1000 Masters. En Grand Chelem, il a mis du temps aussi à valider
ouais.
le gros match.
Oui, justement. Puis à force de prendre du temps, bon, après, il y a eu sa blessure,
À force de prendre du temps,
Eh ben, il a
il
joué
se prend
toujours
la
dans
porte.
les grands
Petit à
chelems.
petit, mais c'est vrai qu'il a Non,
quand
mais
même gagné.
en fait, moi, je pense pas que Sinner ait un blocage comme a eu Zverev en Grand Chelem.
Non, c'est sûr, pas
Pourquoi? Parce
autant.
que
Non.
Sinner a fait des matchs épiques en Grand Chelem. Le problème, comme le disait Laurent, c'est qu'il les a tous perdus. À partir de 4 heures de jeu, j'ai envie de dire, il y a comme une barre, en fait, et à partir de 4 heures de jeu, il perd à chaque fois. Il a perdu évidemment contre Alcaraz le match extraordinaire de l'an dernier à Flushing Meadows, mais il a aussi perdu en menant 2-7 à 0 contre Djokovic à Wimbledon l'année dernière. Il a perdu contre Zverev là en 5. Donc c'est en fait ce que je crains pour lui. Après, il est très jeune, donc il peut le surmonter, mais c'est qu'il y ait une espèce de schéma dans sa tête qui se dise, ah là là, on arrive au cinquième set, là j'ai pas l'assurance pour y arriver. C'est
On
ça
s'arrête en
que
4, c'est
ouais,
mieux.
voilà.
On s'arrête en 4, c'est pas mal. Au meilleur des
Le
4-7.
problème, c'est que si tu n'avances pas à ce niveau-là, tu recules, parce qu'Alcaraz, lui, par exemple, il continue d'avancer, il continue de progresser, il est de plus en plus fort. Donc là, il est derrière, alors que on a un peu l'impression que lui avance moins vite qu'Alcaraz. Donc l'année prochaine, je pense que ce sera très important pour quelqu'un comme Sinner, s'il veut pas décrocher complètement par rapport à. On peut imaginer que Djoko va rester Djoko, et un Alcaraz qui semble encore progresser. Là, ça pourrait devenir un petit peu alarmant. C'est pas encore le cas, mais c'est vrai que moi, je reste un peu sur ma faim sur sa saison en Grand Chelem quand même. J'attendais un petit peu plus.
Et quand on parle de joueurs nés dans les années 2000, on pense aussi naturellement à Ben Shelton, qui a crevé l'écran quand même à Flushing Meadows. Est-ce que, Camille, tu le vois comme un joueur qui aussi peut faire partie de la liste des tombeurs de Djokovic?
Alors peut-être pas là dans l'année ou même
Alors,
l'an
cette année en Grand
prochain,
Chelem,
mais
c'est fini, effectivement.
non, mais comme on disait, en fait, Ben, il va avoir cette folie qui va peut-être déranger Djokovic. Alors ce bras qui est complètement dingue, cette capacité au service a peut-être gêné Djoko, tout meilleur relanceur du monde qu'il est. Et puis il est surprenant, il fait des coups extrêmement créatifs. Et oui, donc je pense qu'à terme, Ben Shelton peut aller chercher des victoires de dingue sur un Djokovic qui va peut-être à un moment fatigué, on ne sait pas. On avait fait un débat là-dessus sur quel Américain pourrait sortir, et Lucas Pouille, qui était consultant avec nous tout au long de la semaine, avait sorti Ben Shelton, et pour le coup, il a eu raison. Donc, je fais un petit hommage à Lucas, parce qu'il y avait du Tommy Paul, ils sont quand même frites, mais c'est vrai que de tous ces jeunes garçons américains, ben, c'est Ben Shelton qui a peut-être le petit plus pour vraiment faire mal de manière nette à un Djokovic dans le futur.
Et mentalement aussi, il a quelque chose d'intéressant, Shelton. Il se pose pas beaucoup de questions, on va dire. Il aime ça, il aime les grandes scènes, il est assez charismatique. Et il a un état d'esprit qui m'a fait penser un peu à celui de, bon, toute proportion gardée au niveau des résultats, hein, mais d'Alcaraz, c'est-à-dire qu'il est, il aime, enfin, il a de la joie, il a la joie de jouer quand il joue. Il a beaucoup de sourires, beaucoup de, et en fait, il disait qu'il était conscient de sa chance de jouer ces grands tournois-là. Et je pense que ça permet d'évacuer une certaine pression, une certaine tension, et d'être plus performant dans les moments les plus cruciaux. Donc ce sera peut-être un atout à l'avenir. Maintenant, techniquement, il est très performant sur dur. On l'a vu à l'Open d'Australie, et on l'a vu à Flushing, et surtout en Grand Chelem, parce que le reste de la saison, ça a été très dur.
Il a fait deux tournois cette année, Shelton.
Voilà, c'est ça. Il
Le
a fait
reste
deux grands
du
tournois.
temps, il a quasiment pas gagné un match. C'est un truc. Moi, je ne sais même pas si j'ai déjà vu quelqu'un faire une demi et un quart en Grand Chelem dans une saison.
La première était donc à l'Open d'Australie, hein, je
Oui, c'est ça,
précise.
oui. Et en faisant strictement rien à
Entre les deux.
côté, que ce soit dans les 250, les 500 ou les 1000. C'est assez fou. Je pense que j'aurais
Il est
90%
stimulé
de
que
ses
par
points sont.
un enjeu
Bah, écoute,
extrême.
oui. Ouais.
Peut-être, mais je pense que là, il est encore au stade d'une forme d'insouciance aussi. Il va aussi apprendre à. Là, il rentre dans le top 20. Il va y avoir des exigences autour de lui, des attentes. Donc, il faudra voir sur la durée s'il tient ça. Mais après, c'est un joueur hyper excitant, hyper charismatique, que ce soit le joueur ou le personnage. Donc, j'espère qu'il va s'installer au top niveau. Mais plus tard, il va quand même falloir qu'il joue un peu plus qu'une fois tous les 6 mois. Parce que sinon. Ou alors il va vraiment se mettre beaucoup de pression s'il joue toute sa saison à Melbourne et Flushing, ça va être chaud quand même.
Est-ce
Et au
qu'il
lieu de
faut
17
pas
tournois, il comptabilise que 4 tournois, il est
c'est
bien.
ça, ouais.
Ah
Ouais,
bah
c'est
oui,
ça.
tranquille. Ouais.
Mais
Les non-cottable tournaments, c'est pas beaucoup.
est-ce qu'il faut pas miser sur lui quand on parle de tennis américain, plus qu'un Taylor Fritz par exemple, qui lui s'est pris le mur de Djokovic en pleine face,
Bah,
hein.
il a probablement un niveau plafond qui est supérieur, c'est-à-dire peut probablement aller plus haut. Je ne sais pas si Taylor Fritz a encore une énorme marge de progression. C'est un joueur qui est constant, qui joue plutôt bien sur toutes les surfaces maintenant, y compris sur terre, il est capable de bien jouer. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se dire que Taylor Fritz va gagner 3 ou 4 grands chelems dans les 5-6 ans à venir. Je ne dis pas que Shelton va le faire, mais ou même Tiafoe. Mais je pense que Tiafoe, on était tout près, mine de rien, l'année dernière. Il perd en 5-7 d'un cheveu contre Alcaraz. Derrière, en demi, derrière, il a Rude en finale. Je ne sais pas s'il aurait battu Casper Rude, mais en tout cas. C'était pas de l'ordre de l'impossible. Fritz, j'ai plus de mal à y croire, mais bon, on verra.
Djokovic a eu ce mot aussi en conférence de presse. Ça sera pour terminer cette partie. Les joueurs vont et viennent sur le circuit. Il en sera de même pour moi. Un jour, dans 23 ou 24 ans, je quitterai le circuit. Il y aura d'autres joueurs, mais d'ici là, vous allez continuer à me voir. Donc, il faut en tout cas se préparer psychologiquement à ce que Djokovic fasse du mal un peu à toutes les générations qui vont suivre.
Ce n'est que le
Et
début.
voilà. Et
On parle
il
des Jeux de
continue.
2028 pour lui maintenant.
Voilà.
Oui.
Los Angeles, il sera là, visiblement. Et
C'est son objectif. Ouais.
il continuera donc tant que son physique et son envie permettront de jouer, évidemment, et d'après ce qu'on a vu, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le circuit ATP peut faire un peu poussiéreux quand même à côté de ce que vit actuellement le circuit WTA. Et nous allons en parler avec notre stat de la semaine. Comme vous le savez sans doute, chaque semaine, notre partenaire Jeu7Maths nous dégote un chiffre marquant. Et cette fois-ci,
Celui-ci s'est arrêté sur l'écart d'âge entre les deux vainqueurs de l'US Open. Donc c'est 16 ans, 9 mois et 22 jours très précisément. Donc c'est l'âge précis qu'avait Djokovic le 13 mars 2004 quand Coco Gauff est né. Celle qui a donc soulevé son premier trophée du Grand Chelem à 19 ans. Et jamais un écart d'âge aussi important n'avait été enregistré entre les vainqueurs hommes et femmes d'un tournoi du Grand Chelem, qui détrône le duo Nadal-Ziatek, vainqueur de Roland-Garros en 2020 et 2022, qui sont toujours séparés de 15 ans environ. Et ça démontre, encore une fois, que ce circuit WTA, et là je me tourne vers Camille, parvient quand même à se renouveler, à promouvoir ces jeunes prometteuses. Faire ça comme ça, chose que le circuit ATP n'arrive pas à faire encore complètement. Qu'est-ce que représente pour toi le titre que Goff a soulevé ce week-end?
De l'espoir, mon cher Sébastien, puisque ce n'est pas la première, comme tu le disais, joueuse extrêmement jeune à remporter un grand chelem. On se souvient de Świątek, Ostapenko, qui avait à peine 20 ans quand elle gagne Roland-Garros.
Andreescu avait 19 ans quand elle gagne l'US il y a 4 ans aussi.
Exactement,
Alors, donc à nous.
Donc, il y a eu quand même de nombreuses joueuses qui ont surpris de leur jeune âge, sauf que Raducanu également. Sauf que, à part Świątek et Gauff, on sentait que c'était de la jeunesse, mais pas encore vraiment établie, et que c'était des titres joués sur l'insouciance, et que les joueuses de la génération d'après avaient manqué quelque chose. Alors, je dis pas que c'était par défaut, mais honnêtement, c'était pas normal d'avoir Raducanu Fernandez en finale de l'US Open. Il y avait un problème. Donc, pour moi, c'était pas forcément positif d'avoir cette jeunesse-là titrée. Alors que depuis Świątek et là maintenant Gauff, qu'on attend quand même depuis un moment, elle a été toujours extrêmement précoce. Elle remporte Roland-Garros Junior à 14 ans. Les garçons, vous me dites si je me trompe, mais c'est à peu près
Ouais,
ça.
c'est ça, c'est ça.
On attendait cette joueuse, mais on se disait, est-ce qu'elle va vraiment pouvoir répondre aux attentes qu'on met sur elle, parce que c'est pas facile. Et le fait qu'elle le valide chez elle, en plus aux États-Unis, alléluia, je pense que là, on tient vraiment un tennis féminin qui va pouvoir se structurer. Et donc, c'est pas tant l'âge, Sébastien, pour répondre à ça, c'est qui arrive et dans quelles conditions. Et je pense que Coco Gauff, c'est une joueuse titrée à l'US Open qui le mérite pleinement et qui a le niveau pour tenir maintenant parmi les trois meilleures joueuses du monde, avec Świątek et Sabalenka en tout cas. On se souvient même d'une Osaka. On se disait, ben, c'est vrai qu'elle a du potentiel, mais regardez, ouais, regardez Ostapenko. Enfin, on a eu du mal en fait à avoir des joueuses qui s'installaient malgré leur jeunesse. Il manquait quelque chose. Et ce n'est pas le cas sur, je pense, Coco Gauff. Et donc, ravie qu'elle ait validé cette énorme case qu'elle avait à cocher pour tout le monde, avec en plus, il faut savoir la pression qu'elle doit avoir là-bas. Hein. Bon, il y a Justin
C'est
Bieber
ça.
avec des lunettes en forme de lèvres qui va l'avoir. Franchement, c'est déjà pas facile. Derrière, deux Williams qui arrêtent. Donc, ils veulent une relève
C'est
aussi
ça.
américaine assez similaire à ce que dégageaient les Williams. Donc, cette jeune fille, elle a quand même beaucoup de pression sur ses épaules et elle l'a gérée avec beaucoup d'émotion. Elle a beaucoup de charisme. Donc, je suis fan de la victoire de Coco Gauff pour toutes ces raisons-là et pas forcément que par rapport à l'âge.
Oui, mais c'est vrai que bon, il y a eu un effet US Open indéniable, c'est vrai, mais c'est vrai que la différence avec les autres vainqueurs de Grand Chelem qui étaient multiples depuis ces dernières années, celui-ci, il était hyper attendu. Et là, je me tourne vers Laurent, qui l'a souvent mise dans ses vainqueurs potentiels en Grand Chelem. Cette fois-ci, ça a fait mouche. Hein. Voilà, c'est
Ah,
pas une joueuse sortie de nulle part, comme d'autres ont pu l'être auparavant. C'est ça
j'aurais
la
dire qu'il
différence.
fallait que ça arrive, mais je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Camille. Elle dépasse déjà le cadre du sport et du tennis déjà et du sport même aux États-Unis, Coco Gauff. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre et toute l'Amérique l'attend et l'espère, comme la nouvelle Serena Williams. Et je parle pas que du point de vue tennistique, du palmarès. Elle gagnera 1, 5, 10 ou 30 tournois du Grand Chelem, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que elle a tout pour être un personnage à la Serena Williams qui tient une place dans la société américaine. Et c'est en ça que je trouve que son avènement est quand même assez exceptionnel, surtout chez elle, parce que effectivement, depuis qu'elle a 14-15 ans, c'est une fille dont on parle, qu'on montre, qu'on interview, à qui on demande beaucoup, dont on attend beaucoup. Et je n'ose pas imaginer à quel point c'est difficile pour une adolescente de 14, 15, 16, 17 ans, entre guillemets, de subir tout ça. Donc, je trouve ça vraiment remarquable, ce qu'elle a réussi là. Et le plus fou, c'est que si on reste sur le côté tennis, c'est que je pense qu'elle a une marge de progression hallucinante.
Oui, c'est fou ça aussi.
Parce que franchement, il y a encore des choix que je ne comprends pas toujours avec elle. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est de se dire que voilà, elle peut, elle va probablement faire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux du point de vue tennistique. Et tout le reste, elle a déjà. Physiquement, c'est une athlète magnifique. Elle a du courage, du caractère, du charisme. Donc vraiment, elle a tout. Et là, on sent quand même que depuis 2 ans, c'est chouette avec le tennis féminin, c'est qu'on a des filles qui arrivent, qui s'installent, qui se maintiennent en haut, après qu'elles soient 1, 2, 3, 4, peu importe. Mais ce sont des filles dont on sent que ça va pas être éphémère. Alors après, il y a deux réserves. Ça peut être le physique, hein, qui lâche, et ça peut être la tête. Naomi Osaka, quand elle gagne 4 tournois du Grand Chelem à quoi, 22 ans, moi je suis persuadé qu'on en prend pour quelques années. Et
Oui,
puis on sait ce
pareil.
qui s'est passé, donc il faut rester prudent vis-à-vis de toutes ces jeunes femmes qui arrivent au plus haut niveau très très tôt. Parce que Swiatek, c'est pareil, on n'en parle pas depuis qu'elle a 14 ans, mais enfin elle gagne son premier Grand Chelem, elle a à peine 20 ans, elle n'a pas 20 ans. Donc, mais aujourd'hui, avec Iga Świątek, avec Coco Gauff, avec une Sabalenka, avec d'autres, je pense quand même que on peut s'attendre à des joutes très sympathiques sur le prochain tournoi du Grand Chelem. Et moi, aujourd'hui, c'était pas forcément le cas pendant quelques années. J'attends un Grand Chelem féminin avec autant d'impatience qu'un tournoi masculin du Grand Chelem.
Et ce n'est pas Maxime qui va te contredire.
Oui, il y a une densité. Je parlais de la densité du top 10 masculin qui me déçoit un peu en ce moment. Bah, je trouve que la densité du top 10 féminin maintenant est beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'était il y a 2-3 ans. Pour revenir sur Gauff, il y a ce caractère de championne qu'elle a toujours eu, mais qui m'a encore plus frappé, j'ai envie de dire, en finale, à partir du moment où elle a commencé à faire douter Sabalenka, qui lui a quand même bien facilité la tâche, c'est vrai, en début de deuxième set, elle était habitée. Je l'ai trouvée habitée, le regard vraiment fixé sur son objectif, comme si rien ne pouvait la détourner de ce sacre que tout le monde attendait, que tous ses compatriotes attendaient, que tout un stade qui résonnait, parce que le Arthur Ashe était couvert, attendait. Et c'est cette capacité à être totalement hermétique à tout cet environnement fou qui est plus que folle. Petite parenthèse, bon, on pourra dire que c'est anecdotique, mais on peut parler de l'effet Brad Gilbert. Pourquoi? Parce que ça fait un mois qu'il est à ses côtés et que depuis qu'il est à ses côtés, elle a quand même gagné le tournoi de Washington, donc son premier 500, le tournoi de Cincinnati, son premier 1000, et puis l'US Open, son premier grand chelem. 20 ans après, Andy Roddick, qui avait fait le même été, même un peu mieux, parce qu'il avait fait deux Masters 1000, lui, plus l'US Open, et qui était à ses côtés à ce moment-là, bah, c'était aussi Brad Gilbert, qui l'avait engagé cet été-là. Donc, petit clin d'œil sympathique.
Qu'est-ce qu'il est fort.
Mentalement, elle a été vraiment très très forte hein, dans cette US Open parce que bien avant la finale, il y a eu des moments chauds. Hein. Moi, je me souviens le match contre Caroline Wozniacki où elle perd le deuxième set. Elle est en train de perdre pied vraiment dans ce match. Elle se fait breaker d'entrée de troisième set et derrière, elle va gagner les 6 derniers jeux. Ça, quand même, faire ça à 19 ans contre une championne comme Wozniacki qui connaît la musique et qui est en train de te mettre la pression, de te faire un peu perdre les pédales. C'est très fort contre Mukova aussi en demi. Je trouve que c'est très fort sa fin de match, la façon dont elle a tenu, alors qu'elle avait servi une première fois pour la qualification. Non, vraiment, mais c'est aussi l'avantage d'avoir vécu à seulement 19 ans tout ce qu'elle a vécu. C'était déjà il y a 4 ans qu'elle pleurait sur le court Arthur Ashe contre Naomi Osaka à Flushing. Donc, elle a emmagasiné une expérience et un vécu à cet âge-là qui est inédit. Autant gagner un grand chelem à 19 ans, c'est pas. En tout cas, dans le tennis féminin, c'est pas quelque chose d'extravagant. Mais en revanche, là où Camille a raison, c'est qu'il y a un côté quand même beaucoup plus structuré. Et moi, j'arrive de nulle part aujourd'hui, mais je recueille les fruits de tout ce que j'ai vécu, les échecs, les succès que j'ai construits depuis déjà 3-4 ans. Ça, c'est inédit à 19 ans. En tout cas, c'est inédit au XXIe siècle.
Et je pense que, pardon, il y a un atout énorme chez Coco Gauff, c'est son entourage. Quand on entend s'exprimer son papa et sa maman, moi je les veux comme parents juste pour un tournoi. Ils sont exceptionnels. Ils sont mais dans la positivité à outrance. C'est tu vas le faire, c'est bien. Ils sont et donc je pense que justement ces personnes-là autour d'elle vont lui permettre de passer tous ces moments difficiles. Et de tenir la pression. Parfois, ce sont des petits détails. Alors, on a vu là, des entourages très durs qui amenaient des gens très haut. Ça, mais je dirais que Coco Gauff, elle a encore le sourire et elle gère la pression parce que autour d'elle, quand elle regarde dans son box, eh bien, il y a des sourires, il y a des claps, il y a vraiment l'attitude américaine comme nous on aime et c'est ce qu'on aimerait copier, je pense, de temps en temps.
Brad Gilbert, quand il a commencé à travailler cet été avec Coco Gauff, la première chose qu'il lui a dit, il dit, je vais te donner un seul conseil, souris davantage. Il dit,
Ouais.
il la trouvait trop fermée encore sur le court. Alors, dans son truc, concentré, mais il a dit, t'as 19 ans, souris, quoi. C'est génial ce que tu vis, ce que tu fais. Donc, souris davantage. Et je l'ai trouvé peut-être un peu plus épanoui dans cette US Open. Et notamment cette cérémonie, alors évidemment elle venait de gagner, mais c'est un modèle du genre, elle a été, son discours est absolument parfait. Et la différence, alors oui, il y en a une qui avait perdu, l'autre qui avait gagné, mais entre Sabalenka, qui était encore complètement sous ses émotions essentiellement négatives lors de la cérémonie protocolaire, et une Coco Gauff qui, du haut de ses 19 ans, a tout maîtrisé et a eu les mots vis-à-vis de son père, c'était très beau ce qu'elle a dit, vis-à-vis de quand elle a remercié ceux qui avait cru en elle, et encore plus ceux qui n'avaient pas cru en elle. Enfin, c'était vraiment un modèle du genre. Et effectivement, on sent qu'il y a quand même toute une, j'allais dire une machine autour d'elle. C'est pas le bon mot parce que c'est très humain, mais elle est super bien entourée, c'est très bien huilé. Chacun est à sa place, chacun connaît son rôle, et je pense que ça, effectivement, ça contribue à ses succès aujourd'hui.
Mais sans entourage, effectivement, ça peut pas fonctionner. Maxime, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, il y a quelque chose qui m'a fait rire, c'est qu'à 19 ans, c'est presque le grand chelem de la maturité, quoi. C'est complètement fou d'y penser. Quand Laurent disait, il y a 4 ans, elle pleurait contre Osaka sur le court, mais c'est une autre vie. On a l'impression que c'est une autre vie.
Elle avait 15 ans, oui.
C'est dingue. Et rien que ça devrait nous faire aussi relativiser quand on est prompt, nous les premiers de temps en temps, à appuyer sur des échecs, une stagnation. Voilà. Elle a 19 ans et elle fait déjà preuve d'une maturité extraordinaire.
En tout cas, la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas réduire le circuit WTA ou trio Świątek, Sabalenka et
Rybakina.
Rybakina, hein, dont on parlait déjà, c'est sans doute un peu réducteur. Non, c'est pas un Big Three, en fait, c'est un Big Four maintenant. Hein. Je suis
Ouais, puis
d'accord, Camille.
enfin, Wimbledon a échappé aussi à ces choses-là. Il y a encore des surprises possibles, mais quand même, on sent qu'il y a une forme de structure dans la hiérarchie qui est en train de
Ouais,
se mettre en place.
densité, Jabeur aussi, il y a Pegula qui n'a pas encore passé un cap en Grand Chelem, mais qui a gagné quand même un 1000 récemment. Non, c'est fort ce top 10 là.
Eh bien écoutez, ça sera le mot de la fin. On va se quitter là-dessus. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser des commentaires. On se retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore, Camille, de t'être joint.
Salut.
Merci, Camille.
Merci.
Et d'ici là, n'hésitez pas à aller taper la balle. À bientôt.
Salut tout le monde.
Salut.
Salut à tous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.